Jacques Blamont, vous venez d'écrire un livre, « Lève-toi et marche », dans lequel, entre autres, vous dites « Le développement durable n'est pas durable ». Expliquez-nous.
Ce livre est la suite d'un autre que j'ai publié il y a 5 ans qui s'appelait « Introduction au siècle des menaces ». Dans ce long livre, je concluais qu'il n'y a rien à faire. Le point crucial, c'est l'augmentation de la population. Il y a aujourd'hui 6,2 milliards d'hommes sur la Terre. Il y en aura, en 2050, 9,5. Et les 3 nouveaux milliards qui viennent vont s'installer dans des bidonvilles. Il n'y a pas de place dans les villes. Donc, on assiste à l'établissement d'un prolétariat profondément humilié et tout à fait dépourvu de dignité. Donc, 2 facteurs doivent être considérés. Premièrement, cette augmentation de la population s'accompagne aussi d'une augmentation de la consommation. Et donc, on en vient à l'idée que, puisque les ressources naturelles sont finies, il va se créer des pénuries. Et ces pénuries, je crois que ces pénuries sont dans un grand nombre de domaines. En nourriture, en eau, en énergie, en espace cultivable et aussi dans tout l'environnement. C'est-à-dire que nous gaspillons les richesses qui ont été accumulées pendant 500 millions d'années. On s'approche vers des conflits, plusieurs catégories de conflits, soit des conflits traditionnels, avec des armées de part et d'autre, soit des conflits qu'on dit asymétriques, entre des armées traditionnelles et des mouvements, disons, activistes. Les conflits vont s'aggraver, ils vont s'aggraver d'autant plus que nous avons une évolution des armes. Et on a vu ainsi l'exemple tout à fait frappant au mois de novembre dernier de l'attaque menée à Bombay, où 200 personnes ont été tuées, par une dizaine de jeunes illettrés qui ont utilisé à fond les techniques les plus modernes de l'espace, c'est-à-dire GPS, Google Earth, Internet.
Vous nous brossez un tableau très réaliste des années qui arrivent et pourtant vous n'en restez pas là. Vous voulez aussi élaborer des solutions.
Les propos que je viens de tenir, je crois, pourraient être tenus pratiquement par tous les gens qui connaissent la situation économique et politique du monde à l'heure actuelle. Ce que je vois surtout, c'est que toutes ces menaces se multiplient les unes les autres. Il y a une synergie entre toutes ces tendances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 3 réponses possibles. J'ai essayé, sous l'influence de mon ami le père Arnoux, de trouver non pas des solutions, mais des pistes. Première piste, eh bien on va se débrouiller. Les scientifiques, les industriels qui ont créé notre richesse et la richesse des pays développés, industrialisés, eh bien ils trouveront autre chose. Cette solution n'est pas une piste. Deuxième piste, qui est un peu du même genre, on va établir une gouvernance mondiale. Par exemple, maintenant on voit arriver le G20 avec des politiciens qui viennent nous dire « nous allons arranger tout ça ». Je dis que cette piste ne marche pas non plus, parce qu'aucun politicien n'est capable d'avoir une vue à long terme. Par exemple, il n'y a rien de plus impopulaire que d'augmenter les impôts sur l'essence. Tout le monde sait que si on augmente les taxes sur l'essence, eh bien, les électeurs vont voter contre vous. Et donc, vous ne serez pas réélu. Il reste une 3e piste. Et c'est le sujet de notre livre. Cette piste, elle consiste à voir les choses en face et à se dire, puisque ni les moyens scientifiques, ni les moyens politiques ne peuvent agir, il ne reste plus qu'une seule catégorie de moyens, les moyens spirituels. Il faut faire appel au cœur de l'homme. Et ces moyens spirituels, pour les mettre en œuvre, il faut s'adresser à des spécialistes du spirituel. C'est Paul VI, je crois, qui a parlé justement de le caractère d'expert en humanité de l'Église. Et je crois qu'il faut s'adresser aux religions. Et bien que je sois moi-même pas pratiquant et même assez, au fond, assez anti-religieux dans ma philosophie, j'ai donc été amené à estimer qu'il fallait s'adresser aux forces religieuses. Alors à ce moment-là, on se rend compte que ces forces, pour qu'elles agissent, il faut qu'elles soient structurées, elles soient organisées. Et ça, c'est une idée qui m'est chère puisque j'ai écrit un livre de 1000 pages sur l'histoire des sciences qui repose justement sur l'idée que les grandes percées scientifiques et techniques de l'humanité ont été dues à des institutions et non pas à des génies isolés. Et ces institutions scientifiques ont été créées chacune, j'en ai trouvé 7 grands exemples dans l'histoire, par un prince. Le premier, c'est Alexandrie, où la science a été véritablement créée par un prince, Ptolémée Sauter, qui était un général d'Alexandre, qui a créé une institution scientifique qui s'appelait le musée, qui était aussi accompagné de la bibliothèque. L'ensemble musée plus bibliothèque a transformé complètement l'histoire du monde et ils ont été créés pour soutenir l'impérialisme naval de Ptolémée Sauter. Deuxième exemple, créé pour les mêmes raisons, les académies des sciences au XVIIe siècle, par exemple l'Académie royale des sciences et la Royal Society, créées pour soutenir l'impérialisme naval de la France et de l'Angleterre. Et puis, troisième exemple qui m'intéresse particulièrement, c'est la création de l'espace. Les affaires spatiales ont été créées par Adolf Hitler. Et c'est lui qui a créé Ex Nihilo, enfin c'est tout de même à cause de lui que ça a été créé, par une institution qui était le département des fabrications de guerre de la Wehrmacht. Ce sont les investissements de cette institution qui ont permis l'invention des fusées à longue portée. Donc je suis très sensible à la notion de structure, d'institution. Et donc à ce moment-là, quand on a dit que l'on veut s'adresser aux forces religieuses, eh bien il n'y en a qu'une qui soit une vraie institution organisée, c'est l'Église catholique. Et celle-là, elle a pas seulement pour elle son antiquité, mais elle a aussi son existence même, elle a des troupes, elle a un chef, elle a des règles, elle sait agir, si elle veut agir. C'est en réfléchissant à la situation actuelle, qui est celle que je viens de décrire, c'est-à-dire l'Église catholique étant la seule force spirituelle organisée avec un chef, des moyens et, si elle le veut, une politique, c'est à elle de bouger.
Je crois que dans votre livre, vous allez beaucoup plus loin.
Je ne dis pas à l'Église ce qu'elle doit faire.
Tout à fait.
Ça serait grotesque.
Nous l'avons bien compris.
Mais simplement, je dis que de l'extérieur, étant donné la situation mondiale qui est en train de s'aggraver et on ne s'en rend pas compte, en 1993, 57 académies des sciences ont déjà appelé l'attention sur les dangers que courait notre globe. Je dis que ce qui serait souhaitable, suivant la ligne de pensée que je vous ai exposée, c'est que l'Église prenne une initiative. Mais cette initiative ne doit pas être un discours. S'il s'agit de discours, eh bien, nous en avons beaucoup. Il me semble qu'une action doit compléter le discours. Je lis des paroles très intéressantes, intelligentes de Sa Sainteté Benoît XVI, que j'ai citées dans mon livre, où il se montre parfaitement conscient des problèmes que nous avons évoqués. Il me semble que ce qui est souhaitable pour l'humanité, c'est qu'il passe à l'acte. Je crois qu'il est nécessaire d'élaborer un nouveau message, et c'est-à-dire de mettre en conformité les messages traditionnels avec les changements de notre temps, aussi bien ceux de tendances que j'ai invoquées, qu'aussi d'autres tendances des mœurs. Et pour atteindre ce résultat, il faudrait qu'effectivement ce soit un concile, parce qu'il faut, dans notre monde actuel, il faut une personnalité charismatique pour lancer le mouvement. Il faut, ce que j'ai dit dans mon livre, une parole tonitruante. Et qui a une parole tonitruante? C'est le pape. Qui peut être un chef charismatique? C'est lui. Mais cette parole ne doit pas s'arrêter là. Elle doit passer à quelque chose. Alors ce quelque chose, pour moi, ça serait effectivement une réflexion organisée qui réunirait d'une façon très large, œcuménique, non seulement les forces vives de l'Église, mais celles aussi des autres obédiences, et enfin de forces tout à fait différentes, comme les sectes, comme surtout les hommes politiques, les économistes et les intellectuels, les universitaires. On pourrait imaginer que ça prenne la forme d'un concile où toutes ces autres personnes seraient invitées par l'Église à participer dans un cadre à inventer. Parce que là, il faut une novation.
Vous dites créativité, nouveauté, mais vous parlez aussi dans votre livre d'un changement de comportement à notre niveau à nous.
L'objectif, ça consiste à élaborer un nouveau code et un code qui soit compris et accepté par l'ensemble des forces qui mènent l'humanité à l'heure actuelle. Et ce code, il faut après ça le faire accepter. C'est pour ça que j'ai fini cette partie de mon livre par une image qui est celle du pape présentant le nouveau code à l'Assemblée des Nations Unies. Parce que les deux grandes forces à l'heure actuelle et qui s'occupent d'éthique au niveau mondial, c'est l'Église et c'est les Nations Unies. L'Église apporterait le message qui doit être violent. Et d'autre part, les Nations Unies apporteraient le bras séculier.
Pour terminer, Jacques Blamont, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait dans ce code ?
Frugalité. Il est nécessaire que notre consommation diminue considérablement. Donc c'est quand je dis frugalité, c'est au niveau de tous nos, de la satisfaction de tous nos besoins que le problème se pose.